Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue toujours sans public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré, vous le savez, à l'actualité DVD, Blu-ray du cinéma avec Charlotte Lipinska de Vogue, Pierrot, Pierre Murat de Télérama, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et du Nord en série que vous suivez comme moi tous les samedis soirs à 20h. Sur notre chaîne et avec Éric Neuhoff du Figaro, Éric dont Albin Michel rassemble sous le titre « Les romans d'avant », on dirait un titre à la Claude Sautet, trois romans justement, « Les anges de Laetitia »,« La petite française » et « Un bien fou ». En fait, c'est le préambule de ton entrée à la Pléiade, si je comprends bien.
Ah bah, je sais pas, c'est ce qu'ils disent.
Quand on commence à rassembler les livres...
Oui, c'est le méfait du couvre-feu.
Voilà, que je vous conseille évidemment de lire. On parle ce soir de Nelly et Monsieur Arnaud, de Claude Sautet, de Diva, de Jean-Jacques Benex, de Montand, Yves Montand, dans Un soir, un train, d'André Delvaux, de Delon, dans Le professeur, de Valerio Zurlini, de Forfaiture, de Marcel Lherbier, de Judo, de Johnito, et à la demande de Xavier Le Herpeur, d'Emmanuel, de Just Jekin. On dit Jekin ou Jacquin, d'ailleurs?
On dit Jacquin.
On dit Jacquin à la française?
Jacquin.
D'accord.
Oui. Les deux. Juste, non, c'est mieux pour l'export. Juste. Si c'est Jacquin, ça fait français. Ouais.
Dans le courrier de la semaine, eh bien, il ne sera question que du film de Georges Lautner. Et encore, je ne peux pas tout lire tellement vous avez été nombreux à m'écrire. Alors, il y a les fans, genre « Touche pas au tonton flingueur » pour François Terrasson de Saint-Just-sur-Loire. Deux snobs, Xavier et Pierre, ont essayé de nous faire bouder notre plaisir en tentant de dézinguer ce monument du cinéma populaire. Heureusement, les deux tontons Jérôme Garcin et Éric Neuhoff, ainsi que Charlotte Lipinska, alias Lily la Nantaise, veillaient au grain et leur ont distribué quelques bourre-pifs bien sentis. Marc Jalinier nous écrit « J'ai enseigné pendant 27 ans à des élèves considéré comme limite, poursuivi ma carrière comme principal de collège. C'est vous dire si dans ma vie, j'en ai entendu des conneries. Et je pense qu'une fois en orbite, Xavier et Pierre n'ont pas fini de tourner. Philippe de Dieppe, comme Claude Rich, Alino Ventura dans le film, je voudrais dire à vos deux critiques, vos opinions sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire et encore pour enfants. Cher monsieur Garcin, ajoute Thierry, c'est avec désolation que j'ai entendu des gens qui aiment l'épouvantable peau d'âne faire joyeusement leurs besoins sur les tontons flingueurs. Dieu que ces gens doivent être malheureux pour en être là. Rémi Chaillou nous dit que son fils Thomas, presque 12 ans, connaît les répliques par cœur. Regarde ce film au moins une fois par mois. Oh Pierre et Xavier, vous n'avez rien compris à ce film, vous avez du bol. Mon fils est chez sa mère, il revient demain, il vous aurait dit les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et puis, il y a aussi tous ceux qui applaudissent, Xavier et Pierre. Merci à eux, écrit Christian Roux, car les tontons flingueurs, c'est très mauvais. Futur cinéphile, passez votre chemin et regardez plutôt l'attaque de la moussaka géante ou la momie aztèque contre le robot. Jérôme Duvivier de Lyon jubile de les voir déboulonner cette aimable pochade. Continuez à dézinguer les films cultes, c'est pour ça qu'on vous aime. Bravo Pierre Murat, Xavier Le Herpeur d'avoir remis à sa juste place les tontons flingueurs, écrit Max Bonnefille de Villebon-sur-Yvette. Un film indigent et ennuyeux, comme Pierre Murat, j'admire Audiard et comme lui, je préfère de beaucoup les barbouzes et le cave. Ce rebiff, une pépite. Et en conclusion de ce courrier, encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu être cités ce soir, il y en avait trop. Olivier, donc en conclusion, Olivier Fressé, professeur émérite à la Sorbonne, qui avait organisé en 2018 un colloque sur les tontons flingueurs, donc à la Sorbonne, dont les actes viennent de paraître dans le numéro 22 de la revue Temps Noir, nous rappelle qu'une brochette d'universitaires de plusieurs pays a pris le temps de se pencher sur le mystère de ce film culte, d'en explorer toutes les facettes au prisme de l'histoire, de l'analyse filmique, de l'analyse littéraire, de la musicologie, de la sociologie, du droit, de l'économie et de la philosophie. Donc si vous voulez avoir les actes du colloque, c'est donc la revue Temps Noir. Donc maintenant, arrêtez de nous écrire. Les deux camps ont eu, chacun a eu son courrier favorable et on arrête. Et on commence avec un film que j'adore, je le dis en préambule, c'est Nelly et Monsieur Arnaud, l'ultime film de Claude Sautet, sorti en 1995, 5 ans avant sa mort, dont Studio Canal propose une impeccable version Blu-ray avec Michel Serrault. Dans le rôle de Monsieur Arnaud, un retraité aisé qui s'attelle à ses mémoires. Mais comme il n'est pas vraiment à l'aise avec l'informatique et le traitement de texte, eh bien, il engage pour l'aider une jeune femme, Nelly, c'est Emmanuel Béard, et qui, elle, a des difficultés financières, et en plus, elle est en instant de divorce, puisqu'elle quitte son mari, Jérôme, qui est joué par Charles Berling, pour passer tout son temps avec Monsieur Arnaud, dont elle va rencontrer l'éditeur, Vincent, joué par Jean-Hugues Anglade. Le mot est galvaudé, mais c'est vraiment un film testamentaire, co-scénarisé par Jacques Fieschi, sur une musique de Philippe Sard, avec entre autres ce dialogue que j'ai renoté, que je l'adore. « J'ai voulu me servir de l'ordinateur, dit Monsieur Arnaud, j'ai tout effacé. » C'est simple, lui répond Nelly, c'est comme une machine à écrire, mais avec une mémoire. Et Monsieur Arnaud, de conclure, c'est ça qui est effrayant, une mémoire et pas de souvenirs. Un film aussi où on croise Claire Nadeau, Michael Lonsdale, qui est formidable, très mystérieux, Michel Larocque, Coralie Zaonero et Françoise Brillon. Un film où je n'ai jamais eu à ce point le sentiment que, en tout cas la manière dont Michel Serrault le joue, il était à ce point proche physiquement du Claude Sautet qu'on a rencontré et qu'on a connu. Pierre.
C'est un film que j'ai revu. Alors, une chose que j'avais totalement oubliée, c'est à quel point Emmanuel Béard était bien. Surtout au début, lorsqu'elle a à traduire le désespoir qu'elle a devant ce type avec qui elle vit. Et qui ne... je trouve que toutes les scènes, la première rencontre avec Monsieur Arnaud, par exemple, elle est formidable de délicatesse et d'émotion. Alors, ce que j'aime bien vraiment dans le film, qui n'est pas le film de Sautet que je préfère.
C'est lequel que tu préfères?
Moi, c'est le film qu'il a fait juste avant, qui est Un cœur en hiver, que je trouve absolument formidable. Alors, ce qui est beau, c'est qu'il revient une fois de plus.
C'est César et Rosalie.
Sûr, mais justement, c'est un peu des films qui ont pour point commun, si je veux dire, une sorte de relation à trois, sinon un ménage à trois, que ce soit César ou Rosalie dans Un cœur en hiver ou dans celui-là. Et c'est ça qui est très beau. Moi, ce que j'aime vraiment dans le film, c'est que ça reste totalement mystérieux. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, ou presque jamais, ce qui va arriver. Par exemple, le personnage de Michael Lonsdale, il est là, il apparaît de temps à autre, il dit une chose...
On comprend qu'il a besoin de fric, hein.
Oui, il a besoin de fric, mais la version que donne Michel Serrault, elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse. Je veux dire que c'est cette ambiguïté permanente qui je trouve très 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 séduisante. C'est un film où, en effet, Monsieur Arnaud est un metteur en scène. C'est pour ça, évidemment, que puisqu'il met en scène à la fois la rencontre, par exemple, de Nelly avec l'éditeur. Enfin, c'est un réalisateur. C'est Sautet, Serrault, en effet, comme tu l'as dit, Jérôme, s'est fait la tête de Sautet.
Et Claude, et la coiffure.
Le réalisateur des Murges. Et alors, voilà. Ça, c'est très, très bien. Et ce que j'aime aussi, c'est la qualité romanesque. Je trouve que c'est un film balzacien, c'est-à-dire que il y a presque un peu, je dirais, de Vautrin dans le personnage de Michel Serrault, parce que il est moins perfide que Vautrin, bien sûr, mais il a eu une double vie, il a eu plusieurs vies, il a été homme d'affaires, il a été un juge candide, et je trouve que ça, c'est très bien rendu, ce côté romanesque, ce côté balzacien, ce côté qui est très rare dans le cinéma français actuel, c'est-à-dire la possibilité de créer des personnages et le mystère.
Avec en même temps une vie avec plein de zones d'ombre, hein. On sent que...
Voilà, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît bien, c'est qu'on ne comprend jamais tout.
Éric.
Ce qui m'embête dans ce film, c'est que pour moi, Sautet, c'est Dabadi, point final. Et je me demande si Fieschi n'a pas été un peu son mauvais génie, ça me rappelle ce qui est arrivé à...
Tu vas pas me dire du mal de ce film après.
Non, je vais pas en dire du mal, les films qu'on va évoquer. Je mets Sautet tellement haut que là, je suis toujours un peu déçu de voir ses derniers films, et il lui est arrivé la même mésaventure qu'à Michel Deville. D'ailleurs, le film ressemble beaucoup à ce que faisait Michel Deville, une fois qu'il ne travaillait plus avec Nina Companese. Je trouve que le film est assez beau, testamentaire, le thème est très prenant, mais c'est un peu comme un sachet de thé qu'on aurait trempé 1000 fois dans l'eau chaude, ça a plus tellement le goût du Sautet qu'on aime. On a un double de Sautet, une fausse Romy Schneider, et on sent que la foi n'y est plus. C'est un film trop poli, peut-être dans les deux sens du terme, à la fois un petit peu lisse et bien élevé. Il n'y a plus le sang qui circule, il n'y a plus la vie qu'il y avait.
La scène où Monsieur Arnaud, et la nuit, est assis à côté du lit où dort Emmanuel Béard ou Nelly, c'est pour moi, c'est du sautet sensuel comme jamais il l'a été.
Oui, mais encore, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça qui.
On sait un petit peu, et puis la fin est totalement expédiée, invraisemblable.
Ah non, mais c'est ça qui est émouvant.
Ah bah non,
c'est
non, il y a quand même des choses qu'il faut faire attention là quand on est sautet.
Ça devient un marescousse.
Le film vaut pour Emmanuelle Béard d'ailleurs, dont je ne me souvenais pas qu'elle était bonne actrice. Et il y a d'autres choses moins réussies. Le personnage de l'éditeur, c'est quand même bourré de clichés. Et en plus, il y a un gros problème, c'est que les mémoires qu'il est en train de dicter à la pauvre Emmanuelle Béard, mais c'est consternant. Personne ne va aller acheter un livre aussi mal écrit.
Mais c'est pas du tout.
Là, t'exagères.
Un petit peu. Ça, c'est.
Et puis, c'est pas le cœur du film.
Oui,
c'est
les mémoires de Signoret.
Charlotte.
Non, alors moi, c'est un film qui m'émeut aux larmes. Ah, et oui. Vraiment, et Eric, quand tu dis que la fin est bâclée, moi, au contraire, je la trouve sublime. Parce que la fin, c'est une fuite. Et comme
on
toutes
peut
les fuites.
On pas la raconter, mais les plans finales.
Voilà. Et ouais. C'est une précipitation à laquelle Emmanuelle Béard ne s'attend pas, ne s'est pas préparée psychologiquement, affectivement. Et donc, elle est comme paralysée devant cette situation et cette relation qui lui échappe. Et moi, je trouve ça absolument bouleversant. Ce sont deux solitudes qui se rencontrent et ce film quand même, évidemment il est crépusculaire, c'est Le Chant du Cygne, tout ce que vous voulez, mais il clôt aussi une trilogie, c'est-à-dire que les trois derniers films de Sautet, Quelques jours avec moi, Un cœur en hiver et Nelly et Monsieur Arnaud, il est à chaque fois question d'un amour impossible et de la difficulté à exprimer ses sentiments. Et là, enfin moi, le film, alors oui, il est un peu à l'os quand même, parce que c'est aussi dans les non-dits, dans les silences, il n'y a pas de grade du tout.
Il y a très peu de scènes de café, de bar.
Très peu, si ce n'est la rencontre quand même, voilà, évidemment, dans une brasserie. C'est divinement écrit, tu le racontais Jérôme, avec cet extrait de dialogue là au début, et avec en plus quand même deux acteurs, je trouve, complètement au service de Sautet, des dialogues, de l'écriture. Il n'y a pas d'affaîtrie, il n'y a aucun effet de manche. Céro, on l'a quand même rarement vu comme ça, parce qu'on garde tous en mémoire le côté aussi fantasque et fou.
C'est pas la cage aux folles.
Alors vraiment pas.
C'est son juge et l'assassin à lui. Hein,
oui, il en a, mais alors oui, il y a la ressemblance physique avec Sautet qui ne peut être que émouvante au plus haut degré quand on sait que c'est le dernier film de Sautet. Il y a la ressemblance avec Romy Schneider, la façon dont il filme la nuque d'Emmanuelle Béard quand elle est de dos, de trois quarts, avec son chignon, ses vêtements. Elle fait penser à Romy Schneider, ce qui est émouvant aussi et qui n'enlève en rien sa qualité d'actrice. Mon seul petit bémol, c'est que la façon dont elle tape à l'ordinateur, on n'y croit pas des masses. Mais ça, c'est vraiment un tout petit détail. Donc non, moi, pour moi, c'est vraiment un très, très grand film de Claude Sautet.
Xavier.
C'est vrai qu'elle est toujours un peu sur la même rangée de lettres.
Oui, avec ça, les... Ouais, voilà.
Elle déborde pas.
Mais bon,
c'est un détail.
Xavier. On dirait moi, c'est simple.
Je trouve que c'est un excellent film, à tout point de vue, qui m'intéresse énormément en termes de mise en scène, de mise en espace, de fluidité, de la réalisation. Je trouve que c'est une leçon de cinéma du premier au dernier plan. Je trouve que le souci du détail, Claude Sautet, et quelque chose d'extrêmement intéressant. Berling, on a tout de suite compris que le mec ne foutait rien, il est encore au lit quand elle parle le matin travailler, et il a plein de journaux pour occuper sa journée, dont on sait qu'il ne mettra pas le nez dehors. Et je trouve que cette manière de caractériser des personnages avec rien, ça c'est vraiment la force du cinéma de Sautet, parce que du coup on peut passer à autre chose immédiatement. Les choses sont dites, et non seulement les choses sont dites, les choses sont montrées. Et je trouve que cette confiance dans la mise en scène vraiment anime superbement le cinéma de Sautet. Il y a des petits détails, la première rencontre avec Monsieur Arnaud, il y a deux glaces qui leur sont proposé. Un garçon de café s'est trompé. C'est une scène qu'on devrait enlever. Elle ne sert à rien et elle raconte énormément de choses entre la différence d'âge, espèce comme ça de rondeur de la glace qui est amenée. Je trouve qu'il y a des trouvailles en termes de mise en scène que je trouve absolument magnifiques. Pour autant, ça ne m'aime pas. Mais le cinéma de
comme Eric, toi, alors.
Ne m'aime pas. Là. Je le trouve. Non, mais je viens d'en dire et je pourrais en dire encore énormément de bien, plein de choses. Je trouve que la scène que tu as décrite quand elle est endormie, qui me fait penser au roman de Kawabata, Les Belles Endormies, absolument, sur la frustration sexuelle assumée, recherchée pratiquement pour l'homme, un tout petit peu au crépuscule de sa vie. Elle est magnifique. Moi, je me serais peut-être arrêté là. Je l'aurais pas développée comme elle est développée. Enfin, c'est pas à moi de refaire le film. Non, mais je passe un moment magnifique. La bibliothèque qui se vide, cette vie qui se vide, cette manière comme ça, autour des personnages. Parce qu'elle aussi, sa vie est en train de se vider. Les hommes la quittent, les uns après les autres. Et puis, il y a cette idée chez Claude Sautet que je trouve très belle. C'est que les femmes sont en mouvement.
ce qui est le cas de Nelly, elle passe son temps à courir, à marcher, à prendre le métro, à aller apporter un manuscrit, et les hommes sont beaucoup plus définis par leur intérieur. En Glade, il est tout le temps dans ce bureau, il habite même au-dessus de son bureau d'éditeur. Donc il y a un côté très statique chez les hommes, comme s'il représentait un pouvoir qui ne bouge pas, et les femmes sont en train de tourner autour de ça, c'était le cas de plein d'autres films de Claude Sauté. Et tout ça, je trouve que à la fois cérébralement, mise en scènement et sensuellement, ce sont des très beaux films, et pourtant, je suis un peu comme Eric, eh ben, ça ne me ravage pas le cœur. Je le regrette, mais en même temps, je savoure.
Tu as le cœur en hiver, Xavier.
Mais non, mais... Dorénavant, nous irons, Charlotte et moi, au cinéma ensemble. Nelly et Monsieur Arnaud, c'est donc le film de Claude Sauté, et c'est, encore une fois, une très bonne restauration que vous trouvez chez Studio Canal. Allez, Diva, on va aller plus vite. Le premier film de Jean-Jacques Benex, qui date de 1981, et qui ressort également en Blu-ray chez Studio Canal. Je ne l'avais pas revu depuis... Aïe, aïe, aïe. Adapté du polar homonyme de Delacorta, c'est l'histoire abracadabrantesque d'un jeune postier, fan d'art lyrique, comme Xavier, qui est joué par Frédéric Andrei, qui réalise au Bouffe du Nord l'enregistrement pirate d'un concert donné par la diva Cynthia Hawkins, et qui vole dans sa loge sa robe de concert, après quoi il se retrouve en possession, cette fois sans l'avoir voulu, d'un autre enregistrement, celui d'une prostituée qui avoue sa liaison avec un commissaire joué par Jacques Fabry. Alors ça... grand moment de la distribution. Et voici notre postier poursuivi par des flics véreux. Alors c'est Gérard Darmon et Dominique Pinon, à peine reconnaissables, mais aussi deux Taïwanais, mais qui bénéficient de la protection d'un certain Serge Gorodich, qui est joué par Richard Boringer. Bref, l'histoire, c'est du n'importe quoi, servie par une image, évidemment à l'époque très tendance, mais... tout ce qui est très tendance vieillit évidemment terriblement. C'est à la fois kitsch et clipeux. Ce qui m'a amusé, c'est une petite scénette où on voit Dominique Besnéard en vendeur de disques. Voilà.
Qui était directeur de casting.
Xavier.
Je me souviens quand j'étais jeune, il y a donc très très longtemps, j'ai donc dû faire un gros effort de mémoire. J'avais dû écouter une émission comme Le Masque et la Plume, dans lequel le film avait été démonté. Et du coup, j'avais été le voir, bien évidemment, par simple et pur esprit de contradiction. Je l'avais vu à la Pagode, je me souviens. C'était après les Césars. Quand il avait récolté les Césars, parce que la première sortie de Diva s'était passée dans une indifférence que l'on comprend mieux maintenant.
Oui, le succès est venu après.
Le succès est venu après. La pluie de César qui a récompensé ce film. Il ne devait vraiment pas y avoir grand chose cette année-là. En même temps, c'est l'époque où les Ripoux aussi avaient des Césars. Donc il y a eu quand même une période d'errance, on va dire, dans l'Académie des Césars. Et je le revois là, en me disant, moi j'avais bien aimé à l'époque, j'avais voulu jouer, faire un peu mon cador, me dire, mais non, ils savent pas être jeunes, ils savent pas être branchés. C'est irregardable, mais c'est irregardable. Alors déjà, effectivement, parce que on se prend une lumière bleue dans la gueule, tout le temps, oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, oui, mais c'est...
Il n'y a pas que du bleu, hein.
Mais il n'y a que du... Si, c'est... Enfin bon, vas-y.
Mais même chez Kieślowski, c'est pas beau, hein, le bleu comme ça omniprésent, hein. Le film avec Juliette Binoche était regardable aussi, quoi. Il y a un moment, les expériences visuelles, c'est pas non plus du cinéma.
T'aimes pas le bleu.
T'aimes pas le bleu, c'est pas grave.
Mais j'aime pas le bleu, non, je dis pas. Je pense qu'il y a un moment,
le bleu,
tout éclairé en bleu, le métro en bleu, les couloirs en bleu, les maisons en bleu. Bon, il y a un moment, on a compris.
Et c'est pas vrai, c'est pas bleu, le personnage Jules, c'est rouge.
Après, oui, alors il y a Frédéric Andrei, qui joue ce petit postier.
Je suis postier à l'ancienne. Hein.
Postier à l'ancienne sur un petit vélo moteur. Je suis ahuri du scénario qui part dans tous les sens, qui ne se reconstruit absolument jamais.
Quand j'ai voulu le résumer, après l'avoir revu, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Alors après, c'est un premier film. Je vais vous laisser parler. C'est un premier film et on peut se féliciter qu'effectivement, il ait ce qu'on attend d'un premier film, une envie d'en démordre, de faire du cinéma.
Absolument.
Après, oui, mais après, il y a un côté book. Je sais faire une poursuite dans métro. Je sais faire aussi des grandes scènes d'intérieur. Enfin, je sais, je vous affirme que je peux éventuellement. Il y a un côté comme ça, je distribue toutes les cartes dont je suis capable. On sent qu'il veut faire absolument tout et son contraire aussi.
Et tout le monde
mais
fait
non,
ça,
c'est du métissage. Enfin, bon, il essaye,
mais que
il mélange
Diva,
plein de
je
genres.
Je n'ai pas touché votre... Mais je suis désolé, objectivement, ça n'est pas bon.
Possible, c'est pas possible. Eric.
Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est encore plus mauvais aujourd'hui qu'à l'époque. Et Dieu sait que ça l'était, puisque si le film n'avait pas marché, ça n'était pas pour rien. Et l'histoire autour du film est plus intéressante que tout ce qui arrive sur l'écran. C'est qu'avant les Césars, il y avait Jean-Michel Gravier, le regretté chroniqueur du matin, qui chaque semaine, à la fin de son article, disait « Allez voir Diva, Diva, Diva ». Et le film, qui n'était déjà plus à l'affiche, était ressorti et la rumeur a commencé à monter. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, enfin, auréolé d'un immense succès à New York et Toronto.
Oui, c'est ça.
Quand même. Oui, mais les Américains ont passage très mauvais à New York goût pour les films
français. Il a quand même fait 2 millions à sa ressortie, donc c'est pas un flop.
Et le film est quand même un catalogue de...
Charlotte le défend.
De tout ce qu'il y avait de pire dans les années 80. La décoration d'Hilton Maconico, les Ray-Ban miroirs, la musique d'opéra qui arrive là, on sait pas pourquoi. Le facteur, mais alors, ils ont pas le droit de se mettre en grève, ces gars-là. T'as vu le loft qu'ils ont? Il distribue le courrier, il a un loft gigantesque.
C'est pas un film réaliste.
C'est pas un loft, c'est au-dessus d'un garage,
Les dialogues, mais alors j'ai vu qu'au générique c'était Jean Van Damme qui avait écrit ça, mais c'est un auteur de BD, mais même la BD, c'est plus intelligent, ça devrait être en Pléiade à côté. Là, mais tout est grotesque, il faut vraiment organiser une soirée avec des copains, avec un stylo à la main pour noter toutes les âneries qu'on entend, l'intrigue c'est n'importe quoi, c'est d'une laideur, ça pique les yeux ce truc-là. Mais c'est un premier film et je ne voulais pas en dire de mal. Voilà. Cela dit, Benek, ça fait pire après.
Oui, toi qui as aimé à ce point le Claude Sautet, tu vas défendre Diva.
Oui, parce que je trouve qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est un premier film, il a une trentaine d'années et on est en 81. Et Jérôme, tu disais, c'est un film qui était dans la tendance. Il n'était pas du tout dans la tendance, il a créé la tendance.
Oui, c'est ça.
Il l'a créé, il a affirmé esthétisme.
Il surfait sur l'esthétique des clips de l'époque.
Oui, mais au cinéma, c'était nouveau. Et il venait pas du tout de la pub, et au cinéma, c'était nouveau. Subway se fait 4 ans plus tard. Il a créé cette tendance-là, totalement formalisme, aux antipodes de l'esthétique de la nouvelle vague. Voilà, ça voulait autre chose. Moi, là où je trouve que le film est assez intéressant, c'est que c'est une sorte de mélange des genres totalement assumé. C'est-à-dire que c'est un métissage. Il y a le genre, il y a le polar, une espèce de dérive urbaine, un film d'opéra. Il y a aussi quand même du métissage multiculturel. C'est-à-dire qu'il y a une cantatrice noire, une jeune vietnamienne délurée, un homme de main qu'on appelle l'Antillais. Et à l'époque, dans le cinéma français, il y avait quand même très très peu d'acteurs de couleur qui avaient des rôles importants. À l'époque, c'était totalement nouveau. Alors effectivement, le bleu, tu parles du bleu, Xavier, en disant que ça te pique les yeux, mais c'était quand même des couleurs vives, saturées. L'image de Philippe Rousselot, moi je la trouve quand même assez dingue pour l'époque. Elle est nouvelle, quoi. Il y a des longs et lents mouvements de travelling qu'on n'avait jamais vu aussi à l'époque en Richard Bohringer, inconnu aussi à l'époque. Le film s'est fait sans tête d'affiche et dans sa baignoire, ça donne une atmosphère. C'est un polar d'atmosphère que je trouve assez étonnant. Et puis quand même, sur le propos, parce que là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement le scénario part un peu en cacahuète dans tous les sens, mais il y a quand même la question du piratage, du droit d'auteur, de l'industrie de l'art versus le geste artistique pur, puisque cette chanteuse refuse de se faire enregistrer. Donc oui, le film a vieilli, mais quand même, à l'époque, c'était quelque chose.
Pierre.
Mais je vais faire très court parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Charlotte. C'est pas du tout un grand film. Mais quand vous le démolissez comme vous le démolissez, il a représenté quelque chose. C'est un film qui restera dans l'histoire du cinéma parce qu'il a représenté, à un moment donné, quelque chose, l'esthétique du bleu. Une espèce d'esthétique de sophistication qui était absolument à l'opposé de ce qui se faisait dans le cinéma de l'époque. Et moi, je trouve que la première heure, tiens, la deuxième, je vous l'abandonne, elle n'est pas bien du tout. Mais la première heure, avec la mise en place des personnages, ces décors, ce loft, cette espèce en effet de deux filles qui patinent avec Bohringer dans la baignoire au milieu de 100 mètres carrés, avec du bleu partout, en effet le puzzle est bleu,
les gitanes, les cigarettes bleues, etc. Fument.
Ça crée quelque chose d'intéressant. Maintenant, que ça soit démodé, je veux bien vous l'accorder, mais que ça représentait quelque chose, et c'est à représenter quelque chose comme certains films représentent une époque.
C'est même pas très bien mis en scène, Pierre.
Mais non,
je suis ravi de savoir que tu aimes le bleu.
Non, la scène du meurtre, la prostituée,
en termes de découpage, c'est une catastrophe.
C'est plutôt rigolo, les deux tueurs, là.
Dominique Pinon et Darmon.
En plus, il y a des touches d'humour à froid.
J'ai du mal des tontons flingueurs, tu aimes les tontons.
Ah, ben, je suis d'accord.
C'est mieux.
Moi, je suis cohérent.
Ah, ben, c'est mieux que les tontons flingueurs au point de vue mise en scène. Après, mais si, mise en scène.
Ne remets pas ça. Va pas sur ce terrain, Pierre.
J'aime bien Lautner, je le répète. Mais voilà. Mais la deuxième partie, je vous l'abandonne. Mais c'est pas aussi catastrophique que ça, et c'est représentatif du cinéma de l'époque.
Bon, eh bien, tentez le coup, et puis on en reparlera. C'est Diva, donc, de Jean-Jacques Benek, c'est chez Studio Canal. On va aller plus vite pour les films qui suivent, notamment Le Professeur, où on découvre un Alain Delon que, personnellement, je ne connaissais pas. Le Professeur de l'Italien Valerio Zurlini, réalisateur mort en 82. Le film datant de 1972, qui ressort restauré
bien sûr, en Blu-ray chez Pathé. Delon y joue Daniele Domici, un prof qui vit toujours avec la femme dont il est séparé, Monica, c'est Léa Massari, et qui est appelé à remplacer un professeur malade au lycée de Rimini. Et parmi ses élèves, la jolie, très jolie Vanina, qui est jouée par Sonia Petrovna, à laquelle il offre la nouvelle de Stendhal, Vanina Vanini, et qui l'emmène voir la Madone de Piero della Francesca. C'est le début d'une histoire assez torride, il faut dire, très rocambolesque, qu'on a vu ailleurs, entre le professeur et son élève, qui a d'ailleurs de son côté un petit ami et des choses à cacher. C'est vrai que je ne connaissais pas ce film, Le Professeur. Je connaissais l'adaptation du Lézard de Tartare, évidemment, en 76, mais pas ce film, et encore moins le Delon, qui incarne donc le personnage du prof Eric.
Ah ouais, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais vu à l'époque, et que j'associe toujours, parce qu'ils ont sorti la même année, c'est avec Le Dernier Tango, que devait jouer Delon, mais comme il voulait être producteur, Bertolucci a refusé. Et d'ailleurs, Brando et Delon ont le même par-dessus en poil de chameau dans les deux films. Et il y a un parallèle vraiment à faire avec ce type malheureux qui déboule, la jeune fille brune et mystérieuse. Là, on a la trompette de Mario Nacimbene, et dans le Bertolucci, c'est le saxo de Gatto Barbieri. Il y a une fin tragique. Et surtout, il y a une façon de filmer une Italie Rimini, hivernale, brumeuse, qui est très, très originale. Delon mal rasé, c'est comme Brando désespéré dans le tango. Et il y a un petit côté kitsch avec ces Vitelloni sulfureux là, qui assistent à des parties de striptease, à des partous un peu ridicules. Et ce Delon en traction avant, dont on ne sait pas quel est son passé, qui traîne sa dégaine là, dans ce lycée où les élèves sont en grève, qui a été marié ou qui est toujours marié à Léa Massari, qui est un personnage un peu comme la femme de Brando aussi dans Le Dernier Tango, et avec des rapports très très spéciaux, puisque quand il couche avec elle, il lui dit « pense à qui tu veux, mais ferme ta gueule ». Il y a quand même une violence, et il y a un désespoir. Le film a vraiment un charme un petit peu vénéneux. Delon a été très marri de voir que le film était un insuccès. C'est, après, il a tourné un tas de films moins bons, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'unique dans sa carrière.
Si tu permets, moi, c'est un peu comme Yves Montand dans le film de Delevaux. J'ai pas l'impression qu'il croit vraiment à son rôle, mais peut-être que je me trompe.
Ah, je vais être un peu plus long, mais je vais être très court pour les autres films. Et là, je voudrais vraiment le défendre, parce que c'est un film qui est vraiment, dès les premières séquences, là, Delon qui marche sur la berge, puis lorsqu'il arrive dans la classe, la façon dont il parle avec ses élèves, la façon dont il voit Léa Massari, son épouse, qu'il console d'un chagrin d'amour qu'elle a avec un autre.
Son épouse qui ne l'est plus, enfin.
Oui, mais enfin, elle vit toujours avec. Enfin, et il y a une scène absolument magnifique un tout petit peu plus tard, dans un dancing où tout se passe entre Delon qui regarde Sonia Petrova et l'autre mec qui tourne autour, et c'est uniquement fait sur les silences. Enfin, les silences, je veux dire. Il y a de la danse, bien sûr.
Les regards.
Et on comprend absolument tout. Et là, c'est vraiment un moment de pure mise en scène qui est magnifique. Alors, ce qui est un tout petit peu moins bien, pour faire vite, c'est le personnage, en effet, que tu l'as dit, Eric, c'est les Vitelloni, qu'on a vu chez Fellini et chez d'autres réalisateurs comme Antonioni, plus vraisemblables que ces petits bourgeois un peu...
Mais joué par le méchant de Peur sur la ville.
Ouais, mais il y a un personnage qui est très très bien aussi, c'est celui que joue Giannini.
Giannini, ah oui,
Giannini qui est visiblement est fasciné par le personnage du professeur, d'Alain Delon, et qui enquête sur lui, qui révèle des choses sur lui. Et il y a une, on sait que Zurlini était un grand mystique, et il y a quand même une allusion comme ça, presque christique à un moment donné. C'est un film très étonnant, très difficile, c'est vrai, mais très très beau.
Je ne savais pas que c'était un grand mystique, Zurlini. Charlotte.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser de cette relation entre un professeur et une élève, c'est pas du tout un problème. Ça, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire, on est dans les
Absolument.
Années 70, il y a une différence d'âge qui est indéniable, et ça n'est jamais abordé dans le film comme un problème. L'empêchement de cet amour se trouve ailleurs, et ce sont deux mélancolies qui se retrouvent, se découvrent ou se reconnaissent l'un et l'autre. Moi, le film m'a beaucoup touchée. Effectivement, Delon, il est au-delà du sublime. Enfin, je le trouve vraiment incroyable. Même doublé en italien, parce que dans la version originale, c'est pas sa voix, ce qui manque quand même un petit peu. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'il ne quitte quasiment jamais son manteau dans le film, comme s'il traversait et cette ville et sa vie. Il a toujours ce manteau beige qu'il enlève en gros que pour aller au lit, quoi. Avec cette ville qui est délabrée, brumeuse, avec ses fêtes glauques. Et lui, il traverse tout ça en trimballant et sa mélancolie et son mystère, le mystère de ses origines qu'on ne connaîtra qu'à la fin. Voilà, il y a la culpabilité, la mélancolie. Moi, je trouve ça très beau, hormis seul, effectivement une fin que je trouve un peu brutale. Et là, pour le coup, Eric, tu trouvais la fin du film de Claude Sautet un peu bâclée. Moi, c'est celle-ci que je trouve...
Comme on ne la racontera pas.
Voilà, je ne dis pas plus, mais ça va trop vite.
Xavier.
Je vais faire vite parce que je suis complètement au diapason et à l'unisson de mes petits camarades. Je crois que c'est un film absolument magnifique. 2h10, bon allez, on peut lui reprocher
un peu long,
petit quart d'heure de trop. Mais il a une ambiance hypnotique, il a quelque chose qui me fascine. Et par rapport à ce personnage qui a quand même plusieurs pouvoirs entre les mains, il est professeur, il est amant potentiel, il est mari, donc il incarne quand même les pouvoirs, j'allais dire, patriarcaux de l'époque. C'est quand même la fin de cette époque-là. C'est-à-dire que les hommes n'ont plus beaucoup de pouvoir. Il y a quand même une décrépitude, quelque chose, une déchéance qui est remarquablement filmée avec ces personnages fantomatiques. Même Léa Massari, est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'il l'imagine? Puisqu'elle ne sort jamais et que personne ne la croit. Et je trouve que Giorlini, comme ça, travaille quelque chose d'extrêmement réaliste. C'est-à-dire que on voit le professeur donner un devoir à ses élèves, aller acheter les journaux pendant ce temps-là, remonter avec un paquet de cigarettes. Donc, il y a quelque chose dans la manière de topographier le parcours de ce personnage d'extrêmement réaliste et en même temps on est dans quelque chose d'un peu étrange, d'un peu hypnotique que la mise en scène accompagne remarquablement. Il y a des lignes de fuite, de décor, on en reparlera tout à l'heure avec le Delvaux par exemple. Je trouve que Rimini devient une ville à part entière, un personnage qui accompagne complètement la mélancolie et la déchéance de ce personnage. Mais c'est pas simplement la déchéance du professeur, c'est les hommes qui sont en train de perdre le pouvoir. Et cette scène dans un hôtel particulier en totale décrépitude qui ressemble terriblement à ses propriétaires d'ailleurs, où ils ont amené une fille du Crazy Horse et qui finissent par la violer dans un coin, je trouve que Giorlini dénonce justement la manière dont la violence masculine à l'encontre des femmes est inhérente et il est en train justement de tordre un tout petit peu les choses à cela et je trouve ça magnifique.
Et c'est donc Le Professeur de Valerio Giorlini avec Alain Delon, film que vous trouvez chez Pathé en Blu-ray. Une curiosité, je le disais à l'instant, c'est Un soir un train, film de 68 du Belge André Delvaux qui ressort en DVD aux éditions Montparnasse avec Anouk Aimé et Yves Montand, les deux d'ailleurs n'ayant pas l'air très à l'aise, mais bon. Montand, c'est Mathias, prof de linguistique dans une université des Flandres, où s'opposent, on voit ça beaucoup au début du film, les Flamands et les Wallons. Il vit avec Anne, c'est donc Anouk Aimé, qui est française, qui est décoratrice de théâtre, mais qui vit mal, même très mal, son exil dans une région dont elle ne partage ni la langue, ni la culture. Le couple n'arrive plus vraiment à communiquer. Mathias, alors, on est au un tiers du film, monte dans un train pour aller donner un cours magistral. Anne vient le rejoindre dans son compartiment et puis elle disparaît pendant que Mathias pique un roupillon. La suite de relève de ce qu'on appelait à l'époque le réalisme magique. Ben, il faut aimer, Charlotte.
Alors, je me suis profondément ennuyée à ce film et en même temps, je le trouve pas inintéressant du tout. C'est assez paradoxal. La première partie, elle a été un peu dure à avaler en ce qui me concerne. Enfin, vraiment, je me suis ennuyée. En revanche, à partir du train et de l'arrivée d'Yves Montand dans une sorte de village fantomatique.
Moi, c'est exactement le contraire.
Ah oui.
Qui m'a intéressé, mais la partie
moi, c'est
onirique.
Les deux.
Ah bon, bah alors tant mieux. Et alors cette partie onirique, où on ne sait pas trop si c'est l'enfer ou le paradis. Alors comme il y a un bar et un cinéma, j'aurais tendance à penser que c'est le paradis, mais bon, ça chacun s'en fera sa propre interprétation. Non, là, moi, je trouve ça très intéressant d'avoir utilisé Yves Montand, qui quand même pour moi est vraiment un acteur terrien, concret dans le quotidien, qu'on ne projette pas du tout dans un cinéma onirique ou fantastique. Et donc, il y a un décalage...
Ni dans la fonction de prof de linguistique.
Non, mais il y a un décalage qui est très surprenant, d'autant que, là où je trouve le film vraiment fort, assez gonflé et audacieux, c'est que le passage de la réalité de l'histoire à sa partie la plus fantastique est quasiment indécelable. Et en ça, c'est assez troublant. Après, faut quand même s'accrocher un peu. C'était peut-être audacieux en 68, je crois. Le film date de 68. Ça a un peu daté aussi, quoi. Ça a vieilli quand même.
Bah, c'est bien de voir qu'on pouvait faire des films aussi tartes et les prendre au sérieux. Parce que là, on regarde ça, mais en se pinçant du début à la fin. Parce que il y a cette pauvre Anouk Aimé qui est affublée d'un pull violet qui lui va comme une culotte à un cheval.
Mais elle est sublime.
On la sent très très mal à l'aise. Mon temps, là, en train de donner des cours de linguistique. Ça, il se demande ça, ce qu'il fait là.
Il n'y a pas beaucoup d'étudiants, hein, cela dit.
Non, 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 et puis ils sont en grève aussi. En grève. On se met à leur place. En plus, c'était la mode à l'époque. Je sais pas, ce Delvaux, là, il ne s'est pas filmé un cours, il ne s'est pas filmé un dîner. Il y a un moment donné où mon temps mange des huîtres en gros plan. On se demande ce que ça vient faire. Et il y a une bourde terrible parce qu'il sert un Montrachet 61 et il dit Montrachet. Alors c'est peut-être l'accent belge, je ne sais pas, mais tout est téléphoné dans le film, je suis désolé, on comprend exactement ce qui s'est passé, c'est dans le même genre, vaut mieux aller voir un très mauvais film aussi de Tornator qui s'appelait, avec Polanski et Depardieu qui s'appelait, je crois, Une simple formalité ou un truc.
Oula,
comme ça. Et ben,
non,
c'est un peu ce même genre de film.
C'est sévère.
Xavier.
Voilà. Moi je suis comme Charlotte, je fais la première partie un peu abrupte, un peu aride on va dire, il faut la traverser parce qu'effectivement on a du mal à croire à la fois à Yves Montand, prof de linguistique, et puis c'est quand même très théorique dans la manière d'écrire cette histoire, de la filmer avec des regards face caméra, mais en revanche, dès qu'on est dans le train, il se passe quand même quelque chose, et ça repose quand même sur le talent de metteur en scène de Delvaux. Moi, je suis désolé, je le vois et je m'y intéresse énormément, parce qu'il crée une ambiance terriblement inquiétante. Je ne crois pas que la résolution soit une surprise.
Tu ne penses pas que le terriblement est un peu excessif ?
Non, je garde mon terriblement. Je ne vois pas pourquoi je retirerais mon terriblement.
Tu vas retirer ce terriblement.
Non, je ne retirerai pas.
Garde l'accent flamand.
Je suis désolé, mais la manière dont il cadre cette ville, mais même la campagne que traversent les trois personnages au début,
le champ de patates,
étrange, mystérieuse, métaphorique, évidemment, psychanalytique, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose d'inquiétant. Et l'arrivée dans le village, ouais, il y a un climat d'inquiétude qui fonctionne particulièrement bien, et c'est dû à la mise en scène. Voilà.
Pierrot.
Moi, ce qui me touche assez dans le film, un peu, en tout cas, c'est le portrait de ce type qui est en effet un lâche. C'est un type qui s'est complètement trompé sur tout. Dès la première séquence, il n'ose pas, avec une vieille dame, là, il n'ose pas dire la vérité, il n'ose pas épouser Anouk Aimée. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un...
C'est pas une dame, c'est sa mère, la scène avec sa mère.
Oui. Mais je veux dire...
Mais il n'ose pas, vieille dame. C'est sa mère.
Non, mais tout ça, autrement... c'est un type qui n'a aucune envergure. Et ce type, il va brusquement être confronté à quelque chose qui va être trop tard, quoi. C'est trop tard. C'est le dernier moment. Il pourrait agir et il n'agit pas. Et ça, je trouve ça assez beau. Et puis alors, dans la partie onirique, il faut noter l'influence quand même d'un autre Delvaux, c'est le peintre, parce qu'il y a Paul Delvaux qui n'était pas de la même famille qu'André Delvaux, mais c'est vrai, l'homonymie a fait qu'il a été influencé. Et chaque plan, par exemple, Anouk Aimée de dos, dans cette tenue que tu n'aimes pas, qui regarde par la fenêtre du train, je veux dire, c'est une toile, quoi. Alors, on peut reprocher, en effet, que ça soit trop pictural. Mais en même temps, je trouve ça assez intéressant.
Un soir, un train, film de André Delvaux, que vous trouvez en DVD aux éditions Montparnasse. Autre curiosité que j'ai découverte, merci de masquer la plume, c'est Forfaiture, film en noir et blanc de 1937, signé Marcel L'Herbier, qui ressort en Blu-ray chez Rimini, le remake d'un film muet réalisé en 1915. Par Cécile B. DeMille, et où jouait déjà l'acteur japonais Sesu Hayakawa, qui reprend ici son rôle du prince mongol. C'est en effet en Mongolie que Denise Moret, Lise de la Mare, est venue rejoindre son mari Pierre Moret, qui est joué par Victor Franzen, ingénieur sur un chantier, et après avoir perdu une fortune au jeu, elle emprunte de l'argent à ce prince, dont en même temps elle repousse, c'est très important, les avances, et décide alors de se venger jusqu'à Paris. Et là, je ne vais pas en dire davantage, ça va être une histoire très rocambolesque, avec un Louis Jouvet très solennel, ça c'est presque un pléonasme, mais surtout très cynique dans le rôle de l'entremetteur et un peu l'âme damnée du prince. Est-ce qu'il faut revoir ce film de 37, Pierre ?
Non. Non, mais je ne comprends pas comment un réalisateur comme Marcel L'Herbier, qui est un bon réalisateur du temps du muet, il a fait vraiment des films très intéressants.
Ah, le mystère de la chambre jaune, c'était...
Oui, puis L'Argent, puis Feu Mathias Pascal. Non, vraiment. Et là, il adorait le film, le premier Forfaiture que tu as cité, Jérôme, de Cécile B. DeMille. Et il arrive à l'affadir, mais alors totalement. Il le complique, il l'affadille, et là, il reprend le même...
Et le fige en même temps, tout est
mais
très
oui,
figé.
Alors, en plus, Victor Franzen est très mauvais, Lise de la Mare est pas terrible. Il joue, fait ce qu'il peut. Enfin, voilà, voilà. Et alors, il y a que Sissu Hayakawa. Alors, lui, c'est très intéressant parce que Rimini a eu la bonne idée de remettre dans le DVD la version de Cécile Benemille. Et alors, moi, je pourrais citer un livre que Gilles Jacob a écrit.
Ah oui, qui était très bien d'ailleurs.
Un homme cruel. Mais
qui était un roman presque.
C'était hein. une biographie romancée.
Voilà,
biographie romancée sur Sissu Hayakawa.
J'ai tout découvert sur cet homme qui a vécu en fait beaucoup aux États-Unis.
Et quand on voit la version de Cécile Benemille, on peut en penser ce qu'on veut, mais on comprend l'impact sensuel, sexuel que cet acteur, a exercé à Hollywood.
Xavier ?
Oui, ben, je suis assez d'accord avec Pierre, c'est malheureusement pas la peine de s'arrêter sur forfaiture. Je le regrette parce que la maison d'édition DVD qui le sort et qui a fait un très beau travail.
Rémini fait le travail, il fait un
très beau travail. J'étais tout à fait ravi de découvrir.
La restauration visuelle est magnifique.
Alors, on voit la beauté des décors, ça c'est incontestable, il y a de l'argent. Hein. C'est-à-dire qu'il crée comme ça des immenses escaliers sur lesquels descendent les personnages. Il complexifie effectivement l'intrigue.
Pourquoi,
qui n'est pas non plus un bon film.
Non, non, je suis d'accord avec toi.
Désolé, il en change la fin. Tout se situe plutôt à New York, en tout cas dans une grande ville. Pour le Cécile Benemille, là, il a voulu jouer de l'exotisme, Marcel L'Herbier. Donc on est sur un grand terrain de jeu colonialiste où les Blancs exploitent les Asiatiques pour construire un immense barrage, enfin tout ça. Mais il n'en fait rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucune opinion. Il ne dénonce pas le colonialisme. L'île de la Mare est mauvaise, comme ça.
Elle est très, très mauvaise.
De l'être.
Mais elle était toute jeunette. Elle avait 23 ans.
Et le pire, c'est qu'elle en fait 40.
Oui, elle en fait le double.
Mais c'est quand même embarrassant. Et tout est embarrassant, tout est figé. Louis Jouvet, qui n'existe pas dans le film de Cécile Benemille, est un personnage qui n'apporte pas grand-chose. Il y a quand même énormément de stéréotypes qui sont à l'œuvre.
Alors, ce qu'il apporte...
Quand on a les deux Asiatiques, je termine juste, qui ouvrent la valise de l'île de la Mare et qui commencent à renifler sa brosse à cheveux, comme si c'était un objet de curiosité, on se dit, bon, ben, il est ça, bien de temps en temps...
Ça, en 37, ça passerait plus aujourd'hui.
Non, ça passe plus. Et il y a énormément de choses qui ne passent plus. Et malheureusement, le romanesque un peu exalté qu'on voudrait attendre de ce film-là, ben on ne l'a pas.
Charlotte ?
Oui, non, mais en deux mots, effectivement, on peut s'en passer. Hein. Il y a autre chose à voir. Mais c'est vrai que Louis Jouvet, bon, on lui fera pas injure que de dire qu'il a été meilleur dans d'autres films. En revanche, je trouve que l'intérêt du personnage, c'est que les Asiatiques dans le film sont quand même tous fourbes, méchants, manipulateurs. Mais il y a un Européen ou Français pire qu'eux, c'est Louis Jouvet. Donc du coup, ça atténue quand même un petit peu cette polarité qui aurait pu être vraiment extrêmement déplaisante. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez tout dit. C'est pas extrêmement intéressant.
Eric, je vais reprendre un adverbe de Xavier. C'est terriblement vieillot, ça. C'est plus fait pour des spectateurs de 2021, même au 18e degré. Ça,
oui.
Ça, que des clichés. C'est un peu comme si Jean-Jacques Benex avait réalisé un film en noir et blanc en 1937, si vous voyez le genre.
Il l'aurait repeint en bleu.
Forfaiture de Marcel L'Herbier. C'est chez Rimini. Et encore une fois, moi, je suis comme vous. Je félicite Rimini pour la plupart de leurs rééditions.
Comment ?
Enfin, Judo du Hongkongais Johnny To, que j'ai inscrit pour Xavier, évidemment. Film de 2004 qui sort pour la première fois en Blu-ray chez Carlotta. Carlotta qui fait aussi de très bons travaux de réédition. Un film d'arts martiaux qui tient aussi du polar et de la comédie dramatique, sans compter l'hommage à Kurosawa et sa légende du grand judo, un ex-champion de judo devenu fêtard et alcoolique, un peu comme Xavier, et dont le club est criblé de dettes, se voit proposer par un jeune judoka de livrer un dernier combat, tandis qu'une apprentie chanteuse demande à se produire dans son club. Bref, l'histoire d'une rédemption, avec en bonus un très bon entretien avec Johnny To, dont je rappelle quand même 35 films à son actif.
Oui.
C'est dire s'il est prolifique, et le making-of de judo. 1h36, Xavier.
Ben, un plaisir pour tous ceux qui aiment comme moi Johnny To. Alors, c'est pas son meilleur scénario, ça part un peu dans tous les
ça,
sens.
Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Ben,
un petit peu les morceaux du puzzle pendant les 5 premières minutes. Une fois qu'on a compris que ça ne l'intéressait pas plus que cela et que ce qui l'intéressait dans ce film-là, c'était les scènes de castagne, les scènes de combat qui sont filmées comme des chorégraphies absolument magnifiques, que ça, ce qui l'intéressait, c'était filmer Hong Kong aussi avec sa diversité urbaine, qui lui permet.
C'est pour ça que j'ai pensé à toi.
Des lignes de fuite, des choses extrêmement intéressantes en termes de décor, en termes d'espace de jeu, et ben il y a des scènes absolument mais magnifiques, extraordinairement mises en scène. Il y a des ralentis, ça chante pendant certaines batailles. Enfin, vraiment, c'est jubilatoire du début jusqu'à la fin. Et Dieu que c'est bien mis en scène.
Oh. Charlotte.
Oui. Alors pour moi, c'est évidemment pas le meilleur Johnny To. Pour ceux qui connaissent pas, je recommande The Mission, qui reste quand même un sommet. 35 films en 20 ans, hein, quand même. Le garçon, c'est un rythme complètement dingue. J'ai l'impression qu'à côté, Ozon, c'est Terrence Malick.
Ça explique.
Il est interdit de partout à Hong Kong parce qu'il a laissé à chaque fois tout détruit.
Bon, les hôtels ne veulent plus le voir.
Et là, il y a ce mélange, c'est-à-dire mi-polar, mi-comédie, qui me plaît beaucoup avec, tu l'as dit Xavier, des scènes incroyables, une scène de bagarre générale dans un bar au ralenti avec juste un homme qui chante, ou comment nos trois héros vont faire une pyramide humaine pour attraper un ballon dans les arbres, c'est d'une poésie folle. Et cette scène finale, hommage à Kurosawa, à qui le film est dédié, quand même, d'un combat dans des champs de blé au pied des buildings, c'est la tradition versus la modernité, il y a quand même des scènes complètement dingues.
Dans mon conseil de fin d'émission, j'ai une bagarre bien meilleure, entre parenthèses, vous verrez, Pierre.
Hommage à Kurosawa, mais c'est une plaisanterie. Enfin, on n'a pas le droit de rendre un hommage à un grand réalisateur, à son film-là, quand on fait exactement l'inverse de ce que Kurosawa a fait. Quand vous dites mise en scène, alors toi, Xavier, tu détestes Benex, la sophistication de Benex, et tu aimes exactement ce que Benex aurait pu faire d'une certaine façon, car c'est alors dix fois plus mal mis en scène que Benex. C'est pas parce que ça saute, ça bagarre.
C'est un peu les tontons flingueurs à Hong Kong. Hein.
Absolument, mais c'est aussi nul.
En termes de découpage, c'est magnifique.
Mais vraiment, ça n'a aucun intérêt. C'est un hommage au western italien qui a beaucoup, à Sergio Leone par exemple, qui a pillé Kurosawa. C'est un hommage à une parodie. C'est une parodie. Ça n'a
Pierre, il y a un sens du cadrage, un sens du montage incroyable.
Ne pas oublier que c'est le monsieur qui nous avait infligé un remake calamiteux du Samouraï avec Johnny Hallyday. Alors, ça relativise la performance. Ça.
Ah oui, c'est vrai.
Et là, c'est un autre remake, moins pire que le Johnny Hallyday, mais ça n'a aucun intérêt. C'est un long clip d'une heure et demie. À la fin, la dernière image, c'est une publicité pour Gillette, avant le générique. Et ça, c'est la première fois que je vois ça dans un film.
Oui, c'est vrai.
Judo, Johnito, Carlotta, et on termine rapidement pour le sourire, avec Emmanuel, film érotique de Juste Jacquin, qui date de 1974, et qui lança, vous le savez, la carrière de Sylvia Christel, avec aussi Alain Cuny, alors là, c'est pour moi, et Christine Boisson. C'est incroyable. Désormais disponible en version restaurée, Blu-ray chez Studio Canal, version supervisée d'ailleurs, par Juste Jacquin lui-même, sur une BO de Pierre Bachelet. Emmanuel va rejoindre son mari diplomate à Bangkok, où elle découvre le plaisir des sens avec Marie-Ange et Christine Boisson. Il y a aussi Marika Green, il y a aussi donc ce Alain Cuny, qui passe directement du TNP de Villard à cette Asie improbable, et qui déclare donc avec cette voix de Stentor qui était la sienne, que la monogamie c'est obsolète, et qui emmène dans une fumerie d'opium Emmanuel, où il la regarde faire l'amour, et à la fin, évidemment, Emmanuel est assise nue dans ce fameux fauteuil en rotin qui a fait la légende du film, et dont je sais que Pierre a un exemplaire chez lui, l'un des plus gros succès du cinéma français, 9 millions de spectateurs France, et 45 millions dans le monde. Poignée de minutes, Eric.
Ah, il faut absolument revoir ça. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les Espagnols prenaient des autocars pour aller voir le film à Perpignan, parce que c'était interdit dans leur pays. Mais il faut vraiment aimer regarder des gens qui font des cochonneries derrière des moustiquaires, parce que le film est vraiment une suite ininterrompue de gags avec le Alain Cuny sépulcral qui explique la vie à cette gourdiflotte de Sylvia Christel qui lui répond « Ah bah, en somme, l'érotisme, c'est le contraire de faire l'amour. C'est tout ce qu'elle a compris. » Et il y a des scènes d'anthologie, là on voit que pendant les vols long courrier, les toilettes sont très très occupées. Il y a Christine Boisson qui est tout le temps en train d'avoir une sucette à la bouche, ah comme c'est fin. Et elle dit ça excite les vieux, alors je ne dois pas être encore suffisamment âgé. Et il y a une scène ridicule aussi dans une boîte où une fille fume d'une façon inédite une cigarette. Bah, je peux vous dire qu'elle n'aura pas un cancer du poumon, et il faut rétablir le franquisme pour revoir ce film.
Pierrot,
Sylvia Christel est bien jolie, c'est vrai, elle est très jolie.
Comme un cœur.
Très très jolie. De Alain Cuny, c'est quand même le pire acteur de cinéma. Je n'oserais pas critiquer Alain Cuny, acteur de théâtre.
Il reprend son rôle Dolce Vita.
Oui, mais il a toujours été nul au cinéma, que ce soit dans Les Visiteurs.
Je crois que c'est le seul film où il porte un costume blanc.
Oui, il était nul dans Les Visiteurs du soir, il n'était pas bon dans Les Amants, il n'a jamais été bon. Alors, la seule petite chose, c'est que, très curieusement, le film est sorti en 73, il a eu le succès qu'on sait, au moment d'un certain vague contre le puritanisme. Alors, c'est très marrant, ils ressortent le film, actuellement, ils vont le ressortir, au moment où, très différemment, il y a une vague de puritanisme qui s'abat de nouveau sur notre pays. C'est très curieux que Emmanuel soit de nouveau à la fois le symbole de l'anti-puritanisme.
Charlotte.
Ouais, c'est une pièce de musée, quoi, voilà, c'est ultra tard. tarte, les dialogues sont tartignoles.
Musée Grévin,
un point. Oui, oui, c'est, pas, voilà, pas c'est, on va remettre ça dans les années 74. Alors effectivement, quand même, les soirées de l'ambassadeur, hein, dans cette diaspora de femmes, il n'y en a pas une qui porte une culotte, c'est génial, elles ont toutes des robes du soir avec des décolletés jusqu'au nombril et il n'y a pas une culotte en vue. Bon, que dire, pas grand-chose, voilà, c'est tarte. Alors après, on n'a pas le temps, malheureusement, là, de le détailler, mais l'initiation à l'érotisme par Alain Cuny et la première étape, ça va être quand même de se faire violer par des hommes dans une fumerie d'opium, c'est quand même très malaisant.
Mais c'est scandaleux que ça n'ait
pas été dingue.
Personne
c'est dingue.
Hein.
Voilà.
C'est dingue.
Donc moi,
absolument.
Je tiens à dire que même si on nous vante une Emmanuelle libre de son corps,
c'est une scène de viol, absolument.
Voilà, volontaire et tout ça, elle se fait violer pour atteindre l'érotisme, et c'est quand même assez insupportable à regarder aujourd'hui, malgré le côté kitsch de la chose.
Xavier, je suis entièrement d'accord. 9 millions de spectateurs, il n'y a pas une spectatrice pour se lever pendant le film, pour hurler. Ça commence par un viol, c'est-à-dire qu'au moment où elle retrouve son mari, il y a un domestique asiatique thaïlandais qui viole une de ses collègues. Et on ne dit rien. Et deux, une heure et demie plus tard, il y a un viol, effectivement, puisque Emmanuel va être enfin défleuré comme il se doit par son emprise d'un Alain Cuny. En même temps, Alain Cuny, c'est un nom rêvé pour un film comme Emmanuel.
Vas-y, fais-la.
Je m'en charge un tout petit peu, voilà. Qui vient de sortir cette phrase absolument extraordinaire, le véritable amour, c'est l'érection, ça n'est pas l'orgasme. Donc le pouvoir phallique, quand même une espèce de centralisation du pouvoir dans ce film, qui ose nous dire que c'est l'éveil à la sensualité d'une femme.
Analysant.
C'est un film de mec, c'est un film de couilles basses, c'est abominablissime, et c'est irregardable aujourd'hui, comme c'était irregardable en 74. Mais aussi, où était le libre arbitre et la conscience des gens quand ils allaient voir cette merde sans nom?
Eh bien, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel.
Elle est même allée dans l'espace, Emmanuel.
C'est juste Jacques.
Même dans l'espace. Non.
Et c'est,
on n'en voulait plus.
Et c'est réédité chez Studio Canal. Allez, un conseil pour terminer cette émission, Charlotte.
J'ai été comme nous tous extrêmement triste par la disparition de Jean-Pierre Bacri, qui, au-delà de l'image qu'il a du râleur bougon, était vraiment pour moi un immense acteur. Je voudrais conseiller deux films peut-être un peu moins connus. Adieu Gary de Nassim Amaouche, un film complètement fou, assez imprévisible, en retenue, en douceur, et qui a pourtant un discours politique assez fort, mine de rien. Et puis Les Sentiments de Noémie Lvovsky, parce que c'est un rare film, peut-être même le seul, où Jean-Pierre Bacri est érotisé, c'est-à-dire qu'il est à la fois désirant et désirable, et absolument bouleversant. Moi, il y a une scène derrière la vitre d'une voiture où il fond en larmes, qui me fend le cœur, et donc revoyez ce film et pensons à Jean-Pierre Bacri.
Et aussi Le Goût des Autres, qui était un film.
Ah bah évidemment,
qu'il est exceptionnel. Ouais. Xavier.
Une formidable série télé qui passe sur Netflix, qui s'appelle Bir Baskadir, qui est une série turque de 8 épisodes, qui m'a été recommandée par quelqu'un que je remercie ici ce soir, et qui est absolument remarquable. Alors là, la condition de la femme est au cœur de cette série turque, puisque tout commence. Alors c'est un peu sur le principe de la ronde de Schnitzler. Chacun va apporter un personnage secondaire, on va voir. Tout le monde va tourner, mais tout commence lorsque Meryem, qui est une femme de la campagne qui travaille à la ville, un peu gauche, comme ça, avec son voile, va voir une psy parce qu'elle a tendance à s'évanouir sur son lieu de travail. Et en travaillant avec elle, la psy, qui est un peu rebutée par cette femme qu'elle ne trouve pas assez indépendante, pas assez affranchie, trop soumise aux voix et à l'islam, et bien entre les deux va se passer quelque chose, la prise de conscience de ce qu'est être une femme aujourd'hui en Turquie, d'une Turquie fracturée entre la ville, effectivement, et la campagne, la religion et l'athéisme. C'est absolument remarquablement écrit et remarquablement mis en scène. Il y a des moments somptueux.
Et c'est Netflix.
Netflix, Bir Baskadir.
Mon conseil, c'est un coup de foudre. C'est un film qui s'appelle Nous, je ne sais pas si vous le connaissez, du plus british des cinéastes français de l'après-guerre, qui est Edmond Greville. Polar absolument virtuose de 48, qui ressort chez Dorian Film, l'histoire d'une journaliste américaine qui est épaulée par une troupe de boxeurs pour défier à Londres un gangster italien. Guerre des gangs, qui d'ailleurs parfois tourne à la guerre des gangs. Et c'est mené tambour battant. Et il y a dans ce film, j'ai rarement vu ça en 1h30, tous les styles. Il y a la comédie loufoque hollywoodienne, il y a l'expressionnisme allemand pour la lumière, il y a le réalisme français, et même, pour une scène de bagarre, presque le western de Saloon. C'est absolument brillantissime, très drôle, très féroce. Ça s'appelle Nous, et c'est signé Edmond T. des Gréville. Le conseil d'Éric.
Un film qui devait sortir en salle et qui finalement passe sur Netflix, c'est Pieces of a Woman du hongrois Corneille Mundzuko.
Dont on va, Éric, parler au masque dans 15 jours.
Tu as raison, parce que c'est vraiment un choc. C'est l'histoire d'une femme qui veut accoucher à domicile et la première scène, c'est 23 minutes de plan fixe, enfin pas fixe, plan unique sur l'accouchement. C'est quelque chose d'incroyable.
Un vrai. J'ai vu aussi, c'est du brutal. Hein.
Ouais, c'est du brutal et ensuite on voit comment toute la vie de cette femme part en lambeaux et le film est aussi beau et fort que quelque chose comme Manchester by the Sea.
Film, encore une fois, dont on parlera ici. Et Pierre, enfin.
Alors, c'est un hommage à Stéphane Lerouge, qui est un fan de musique de film. Et ça fait 20 ans qu'il édite des musiques de film sous la rubrique Écouter le cinéma. Et donc, ça, il fête ses 20 ans. Et donc, il sort 2 CD qui regroupent pas mal de musiques de film qu'on aime tous. Et puis, surtout, 36 interviews à la fois de compositeurs comme Lalo Schifrin, Ennio Morricone, Michel Legrand, Gabriel Yared, et de réalisateurs qui parlent de musique de film. Et tout ça est aux éditions Universal Musique France.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat, Éric Neuhoff, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sélam. Et ce soir, à la technique, au théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie, il y avait Marie Le Peintre, Éric Carrère, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera à nouveau de la rentrée littéraire. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.